Bon, premier sujet ce matin, on a eu cette alerte hier de l'Autorité des marchés financiers et de l'Office de la protection du consommateur, là, les faux prêteurs d'argent.
Ouais, évidemment, quand on est dans une situation où les gens ont besoin d'argent, il y a des gens qui saisissent l'occasion pour nous dire « on est là pour vous aider ». Alors, je vous dis, soyez prudents, il y a deux types de prêteurs privés. Des prêteurs qui ne sont pas dans le système bancaire ou des institutions financières conventionnelles. Il y a un, les fraudeurs. Ça, c'est pas compliqué, c'est des voleurs, ils essaient de vous arnaquer. Et la deuxième catégorie, ce sont des prêteurs légaux avec des conditions hautement désavantageuses. Donc, la protection du consommateur puis l'AMF nous parle des premiers, c'est-à-dire les fraudeurs, mais je vais te parler aussi des deuxièmes tantôt. Donc, premièrement, les premiers. Sachez que si on vous offre sur Facebook l'idée de vous financer à un faible taux d'intérêt, si vous êtes à risque, ben c'est pas logique. Le taux d'intérêt est proportionnel à votre crédit, proportionnel à vos actifs et proportionnel à votre capacité de payer et proportionnel à, disons, vos garanties. Donc, plus vous êtes un client stable et facile à gérer, plus le taux est bas. Donc, c'est un peu inversement proportionnel. Plus vous êtes risqué, plus vous payez cher. C'est logique. Et là, pensez à des prêteurs conventionnels. Je suis allé voir sur Desjardins les prêts accordés ce matin, juste pour le principe. Un prêt personnel qui n'est pas garanti par un actif, c'est-à-dire une maison, a un taux d'intérêt élevé. Comme par exemple, si vous empruntez 2000 $ variable sur 2 ans, vous allez payer du 9 % environ. Et si vous, par exemple, vous décidez de prendre
du
un
9?
Prêt... Oui, ben 9, ça c'est variable, mais c'est un prêt personnel. Oui. Okay. Tu m'empruntes 10 000 ou 5 000 ou 2 000, puis tu n'as aucune garantie. 9, c'est pas cher parce que ta carte de crédit est à 20, 21, 22, 25. D'un autre côté, si tu veux un taux fixe garanti, là, tu es ailleurs. Là, tu vas payer peut-être jusqu'à du 12, 14, 15 %. Pourquoi? Mais parce que tu vas avoir un prêt personnel sans garantie. Et donc, ça, ce sont les prêteurs conventionnels. T'imagines-tu un prêteur privé? Lui, il va te charger à total s'il est légal. Alors, si on vous hameçonne avec des prêts pas chers, du faible taux de financement et du partage du type « Ah, mon ami Jean-Claude Leduc m'a aidé à financer à 0,5% ma dette de 20 000 », soyez sceptiques. Parce que, veut pas, le prêteur, faut qu'il fasse de l'argent aussi. Là, on va aller dans la catégorie des légaux, Paul. C'est-à-dire les prêteurs qui ne sont pas pointés par l'AMF, qui ne veulent pas voler vos données et qui ne vous chargent pas de l'argent d'avance pour vous voler. On parle des prêteurs qui sont à l'extérieur du réseau bancaire et qui vous offrent de l'argent sans garantie. Donc, des 500, des 750, des 1000 ou même des 10, 15 000 $. Mais ces prêteurs-là vont vous charger un taux d'intérêt apparent de 22 % 23 % Vous allez vous dire, ben c'est pas si pire 22-23 % de base dépendant de mon dossier de crédit avec le niveau de risque. Attention, on va ajouter à cela, Paul, ce qu'on appelle des frais d'adhésion, des frais de gestion, des frais de dossier. Et là, on vous présente ça, exemple, comme 20 $ par semaine.
Je me souviens pas c'est quoi le taux qui...
À quel... C'est 60 % usuraire.
Usuraire, c'est ça, hein? C'est 60? Ouais. OK.
Sauf que si je te fais un taux à 22, disons que tu empruntes 1000 $, Paul. Je te fais un taux à 22 % je suis pas usuraire. Par contre, je te charge des frais d'adhésion hebdomadaires... Ouais. Ou de dossier de 20 piastres, puis tu me rembourses en 6 mois. Fais le calcul, 26 semaines à 20 piastres par semaine, ça fait 520 piastres de frais d'adhésion ou de gestion sur un prêt de 1000, 1500 plus le 22 %. On s'entend, on joue sur les mots de la loi. Donc, si t'es refusé par le système financier, c'est parce que ton crédit est détruit, c'est parce que ta capacité d'emprunt est largement dépassée, parce que ton bilan est épouvantable, parce que ta situation est trop précaire. Donc, quand vous allez dans le prêt privé, je conseille ça à personne, sauf si vous êtes dans une situation de pont que vous n'avez pas le choix pour une courte période et il y a du gros argent qui s'en vient pour compenser pour une raison, oui, que vous vendez votre maison ou simplement qu'il n'y a pas d'autre option pour vous, puis que vous attendez un héritage dans 6 mois, il y a des possibilités comme ça. Mais si vous êtes dans la déchéance financière, c'est pas avec un prêt privé entre 19 et 45 % de taux d'intérêt que vous allez vous en sortir.
Non, ça c'est sûr. Très bien. Donc, un petit mot sur le golf.
Oui, le golf a fait des relations publiques au grand plaisir de M. Crête. C'est que l'industrie du golf décide, sort une analyse de Group ATN Consulting qui dit que le golf génère 18,2 milliards de retombées économiques en 2019. Évidemment, Paul, c'est pas innocent. On sort pas ça de même de chapeau pour le plaisir. On paye une analyse en montrant un chiffre absolu. Ça veut dire quoi 18,2 milliards de retombées économiques? Ça veut dire qu'il y a des gens qui dépensent pour 18,2 milliards. Mais quand on regarde ça froidement, on fait pas d'analyse comparative avec d'autres domaines. On nous dit ça génère 249 000 emplois. OK, quel type d'emploi? C'est des emplois payants? Y a-tu des régimes de retraite? Y a-tu des hauts salaires? On compare rien avec rien. On met des chiffres absolus pour, évidemment, une activité de lobbying qui va arriver probablement avec de l'aide gouvernementale parce que 2020 n'a pas été une super saison de golf, j'imagine. Et donc, on nous fait une analyse économique, mais c'est un peu biaisé. On nous parle pas du coût de renonciation en taxes de monopoliser des grands espaces, ni des impacts de la monoculture, ni des taxes, ni des espaces de vie, ni des impôts liés à des emplois qui pourraient être à des endroits où il y a des terrains de golf. Juste en maison. Si tu mets 300 maisons sur un terrain de golf en taxe foncière, il y a un coût de renonciation. Donc, c'est sûr que le terrain de golf, c'est un sport. Mais ce qui est spécial, c'est de faire du lobby avec des chiffres absolus. Ça veut dire qu'ils ne veulent absolument rien dire.
Non, mais c'est comme n'importe quelle annonce. Moi, c'est, tu sais, Québec investit 150 millions. OK, mais c'est quoi? C'est-tu récurrent? C'est-tu une fois? C'est comment? Tu sais, t'as jamais ces détails-là. On essaie de nous impressionner toujours avec des gros chiffres. Puis là, comme tu le dis, ça, c'est clair que c'est dans le cadre d'une opération de lobbying. Là.
Oui, puis on s'entend que le golf, c'est pas comme d'autres activités sportives qui sont ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire les cours, l'équipement, le membership, la distance des quartiers moins luxueux. Le golf est un sport de riches. La preuve, j'en ai jamais vraiment joué, Paul, même si je suis content.
C'est dingue, mais... On va recevoir quelques courriels.
Oui, je blague. Mais comprenons que c'est un sport quand même dispendieux et ça prend beaucoup d'espace près de quartiers cossus. Alors, la question est, des retombées économiques, oui, mais parlons aussi de coûts de renonciation. Mais je salue mes amis les golfeurs, je vous respecte, c'est une belle chose, vous avez du plaisir, c'est correct. Mais une analyse financière et économique pour avoir des fonds publics, c'est toujours bien présent dans les médias.
Salut.
Salut.
7h23, la 40.